La semaine dernière, nous avons déjà vu deux chapitres entiers des Romains, après avoir fait de temps en temps un ou deux versets. Je me suis lâché et on a fait deux chapitres entiers, mais on va quand même revenir là-dessus. Pourquoi j'ai fait deux chapitres entiers? Parce qu'en fait, la partie Romains 9, 10 et 11, c'est un tout, et je pense que le plus important, c'est de saisir les grandes lignes. Et après, on peut revenir éventuellement en discussion sur les détails, mais il est important de voir les grandes lignes. Alors, avant de revenir sur les chapitres 9 et 10, je vais le remettre un peu dans son contexte. Nous avons vu. Donc, nous avons vu au chapitre 1 à 8 toute la doctrine du salut. Que nous sommes sauvés par la grâce, gratuitement, par la foi, sans nos œuvres. Et parce que nous sommes sauvés, nous avons une relation avec Dieu et la vie éternelle. Mais après, c'est une bonne nouvelle tellement merveilleuse que la question se pose tout de suite, mais pourquoi les gens ne veulent pas ou n'acceptent pas cette bonne nouvelle? Cela a dû déjà poser quelques questions pour. Les premiers chrétiens. Et Paul a en partie donné une réponse à la fin du chapitre 8 en parlant du fait que ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a choisis, il les a appelés, justifiés et glorifiés. Donc on a déjà cette notion-là du choix de Dieu qui nous dépasse un petit peu. Parce qu'on voit par ailleurs dans les Écritures que cela ne remet pas en question la liberté de l'être humain, parce qu'on s'adresse aux êtres humains pour dire croyez en Jésus. Mais il est vrai que nos cerveaux sont limités, on n'arrive pas à bien mettre les deux choses ensemble, il y a des façons de le faire, mais ce n'est pas le thème de cette matinée. Mais le problème se posait, en fait, pour Paul, les premiers chrétiens, de façon encore plus aiguë pour le peuple juif. Parce que Jésus, pour eux, c'était l'accomplissement des prophéties, c'était le dernier chapitre de la révélation. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est comme si l'Ancien Testament, c'est un roman qu'on lit, et on arrive à la fin, et dit, il manque les deux ou trois derniers chapitres. Il n'y a pas la fin de l'histoire. Là, c'était l'aboutissement. Jésus est le Messie, le Sauveur de son peuple. Et les chapitres 9, 10 et 11 tournent autour de cette question-là. Mais pourquoi le peuple juif ne voit-il pas en Jésus le Messie attendu? Donc, en filigrane, on peut l'appliquer également aux Français, aux Tunisiens, aux Indonésiens, aux Brésiliens, si on veut les mêmes principes quelque part, mais la question qui se posait avec le plus d'acuité, c'était pour le peuple juif, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que parfois, et on a le récit dans les Actes, les Juifs persécutaient Paul et voulaient empêcher qu'il annonce la bonne nouvelle. Ce n'était pas simplement qu'il n'avait pas accepté, il avait rejeté et même empêché les apôtres d'annoncer cette bonne nouvelle. Donc voilà la question qui est posée, et on va juste revenir sur ce que j'avais dit la semaine dernière. C'est que d'une part, une première explication qui fait, même si Paul souffre de cela, au point de dire que lui-même il accepterait d'être séparé de Christ hein, si tous les Juifs pouvaient se convertir. La première explication, c'est la souveraineté de Dieu. Donc, je ne vais pas revenir en détail là, mais déjà, il dit, est-ce que Dieu accomplit ses promesses? Oui, il accomplit toujours ses promesses. Et il donne deux exemples, envers Abraham et envers Isaac. Dans le cas d'Abraham, donc il y avait les deux enfants, Isaac et Ismaël, et la ligne de choix est passée par Isaac. Et donc Rebecca, la femme d'Isaac, avait des jumeaux, et Dieu a choisi le plus jeune, Jacob, plutôt que Ésaü. Donc, il y a eu des choix déjà dans l'Ancien Testament qui ont été opérés. Donc, dans la sagesse immense de Dieu, il a déjà fait ses choix. Mais la question revient quand même, lorsque Dieu est injuste. Et la réponse du verset 14, c'est, je lis le verset 14 et le verset 15, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et la réponse, en fait, est plus ou moins la suivante, c'est que si on demande la justice de Dieu, c'est fichu pour tout le monde, parce qu'on est tous pécheurs. Donc si on ne reste qu'à la justice, en quelque sorte, personne ne serait sauvé. Donc la réponse, c'est que Dieu n'est pas injuste. Au contraire, il fait miséricorde, il fait compassion à un certain nombre de personnes, donc aux sauvés. C'est déjà une première réponse. Deuxième réponse, c'est que même si on n'accepte pas cela, qui sommes-nous pour contester Dieu? Et Paul dit, c'est un peu comme le vase qui dirait au potier, je ne voulais pas être comme ça. C'est le potier qui décide, hein. C'est pas le vase. Le potier fait ce qu'il veut. Dieu, le Créateur, il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas à contester. Par contre, nous avons à la fin du chapitre 9 le fait que Dieu a choisi à la fois des Juifs et des païens, des nations. Donc Dieu non seulement a été riche en miséricorde, mais cette miséricorde est plus large que ce que certains juifs pensaient, même les apôtres au début. Hein. Il a fallu que Dieu les convainque que l'évangile était pour toutes les nations. Donc Dieu a choisi des juifs et des païens. Donc la première partie de la réponse, pourquoi tout le monde n'est pas sauvé, c'est la souveraineté de Dieu. Mais une deuxième partie de la réponse, à partir de la fin du chapitre 9 et le chapitre 10, pour dire qu'il y a aussi la responsabilité de l'homme. Et il y a d'abord la responsabilité de celui qui entend le message. Et c'est là la première partie du chapitre 10 et la fin du chapitre 9 qui insiste que l'on est sauvé par la foi. Donc la responsabilité est. Riri, on en parlait pas mal dans sa présidence tout à l'heure. La première responsabilité, c'est de croire. C'est la foi. Donc là, c'est quand même. Il y a un message qui est annoncé et quiconque croit en lui ne sera point confus. Hein, c'est le chapitre 11. Ou si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, Christ, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, la première responsabilité, c'est de celui qui entend le message. Et la deuxième responsabilité, c'est pour celui qui a déjà reçu le salut, donc nous, d'annoncer ce message pour que d'autres puissent y croire. Et à tout le raisonnement, par exemple au verset 14, mais comment donc ces gens invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, quand on dit prêche, je l'ai dit la semaine dernière, il ne s'agit pas de voir prêcher simplement, se mettre là devant l'Église et d'apporter un message. Le mot, c'est parler. Donc, et nous avons tous la responsabilité de parler. Et j'aime de plus en plus ce mot envoyé, que nous sommes tous envoyés. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Nous sommes tous envoyés vers les autres. Et ça peut être à la porte de l'école, ça peut être au travail, ça peut être dans sa famille, ça peut être chez le boulanger. On est tous envoyés. Et notre rôle en tant que chrétien, c'est de prier et pour saisir les occasions de témoignage que Dieu nous donne. Tôt ou tard, les gens parlent, il y a des sujets qui sont abordés et ça nous permet de dire notre foi en Jésus et d'être des témoins. Donc voilà jusqu'où on est venu la semaine dernière. Et maintenant, on va commencer à la fin du chapitre 10 pour revenir à cette grande question. Alors pourquoi le peuple juif ne voit-il pas en Jésus le Messie attendu? Et tout le chapitre 11 que nous allons voir ce matin parle de cela. Déjà, la question est reposée d'ailleurs à la fin du chapitre 10. Donc je vais relire les derniers versets. Romains 10, 18. Bon, je vais commencer au 17, parce que c'était la conclusion de la semaine dernière. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Mais Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, dans ces versets 18 à 21, il y a quatre citations de l'Ancien Testament. Quatre citations tirées de différents textes bibliques, de Deutéronome, d'Ésaïe, plus encore, il y a encore Ésaïe. Et pour dire deux choses. D'abord, pour annoncer que l'Évangile serait aussi devait inclure les païens, et deuxièmement pour dire que le peuple d'Israël est un peuple rebelle. Donc on a en quelque sorte une deuxième conclusion de ce chapitre 10. Le premier c'était la foi vient de ce qu'on entend. La deuxième conclusion c'est que l'évangile était annoncé par toute la terre, que Dieu a été trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas, donc les non-juifs, par contre les juifs. Israël, Esaïe dit déjà qu'ils sont un peuple rebelle qui refuse la main tendue. Donc, on arrive donc à ce chapitre 11 où Paul repose cette question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Donc, c'est le verset 1. Alors je vais lire du verset 1 à 10 qui donne deux réponse à ces questions. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple Israël, le peuple élu de l'ancienne alliance? Donc je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas des œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors, la fin de ce verset ne se trouve pas dans toutes les lignes. Verset 7. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Donc, la première réponse, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? La première réponse est non. Et Paul dit, regarde-moi, je suis juif, je suis chrétien, je suis croyant. Donc, c'est la première réponse. et dans Paul aurait dit, et tous les autres apôtres, et Jésus lui-même, et toute l'église de Jérusalem, et beaucoup à Antioche, etc. Donc Dieu n'a pas rejeté parce qu'il y a quand même des juifs croyants. Et Paul lui dit lui-même, hein, donc il est la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, etc. Donc, première réponse, Dieu n'a pas rejeté son peuple parce qu'il y a des juifs convertis au Messie. Et la deuxième réponse, c'est que même si, en fait, il n'était pas majoritaire, il y avait quand même ce reste qui avait cru. Et il donne l'exemple d'Élie, et il pensait être tout seul, que tout le monde avait rejeté Dieu pour suivre les Baals, hein, sur le roi Akab. Et Élie s'est plaint devant Dieu, et Dieu a dit non, il y a 7000 personnes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Élie, tu ne les connais peut-être pas, mais moi je sais. Dans tout Israël, il y a des personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui sont restées fidèles. Donc c'est la même chose. Peut-être tout Israël ne s'est pas tourné vers le Messie, mais il y a quand même des gens, un peu partout, du peuple juif, qui se sont convertis, qui ont cru au salut en Jésus-Christ. Et tout cela, il le montre également en citant un certain nombre de versets. Il dit que c'est par la grâce, au verset 5, personne n'en a hérité. Par contre, les versets qu'il cite à partir du verset 7, c'est pour dire que Dieu a en quelque sorte endurci ou aveuglé les gens pour qu'ils ne voient pas. Alors, cet endurcissement, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a les deux côtés de la médaille. Parce que d'une part, quand le pharaon a refusé de laisser partir le peuple d'Israël, il y a plusieurs versets qui parlent de l'endurcissement de son cœur, et c'est vraiment 50-50, parce que la moitié des versets disent qu'il s'est endurci le cœur, et l'autre moitié dit que l'Éternel lui a endurci le cœur. Alors on est de nouveau dans le chapitre 9 et 10 de la souveraineté de Dieu, la responsabilité humaine. Donc, Dieu n'a pas rejeté son peuple, ça c'est les versets 1 à 10, mais il y a quand même une deuxième question qui est posée au verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils sont branchés? Bon, là j'ai pris la traduction du Semeur. Ils ont trébuché, ou ils ont fait un faux pas, je crois que c'est marqué quelque part dans la version du Semeur. Ils ont fait un faux pas, mais est-ce qu'ils sont tombés définitivement? Est-ce que maintenant c'est fini pour le peuple juif? Et la réponse de Paul est un peu inattendue. Elle dit, il y a déjà une bonne chose qui est venue de cela, c'est que si les juifs, eux, n'ont pas tous cru, ça nous a forcé, en quelque sorte, d'aller annoncer l'évangile un peu plus loin, et c'était les goyim, donc c'est le mot hébreu qui veut dire les nations, les peuples, si on veut, les gentils, on dit des fois, en termes un peu techniques, pas gentil dans le sens il est tout gentil, mais ça vient du mot gens, hein, les peuples. Les gens, les peuples, les goyim, croient parce que les juifs ont refusé d'entendre. Donc je vais lire d'abord le verset 11 à 15, qui le dit, et je vais donner deux exemples dans les Écritures. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, aux goyim, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en serait-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart était la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Donc, des exemples de cela, ils ont refusé l'évangile et les apôtres sont tournés vers les païens. Je lis deux versets, Actes 13, 46. Acte 13, 46, où Paul parle aux Juifs en disant, qui ont été un peu persécutés, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Voilà un exemple concret où Paul et Barnabas ont été à la synagogue. Beaucoup n'ont pas voulu savoir, donc ils vont vers les païens. Et la même chose à la fin des actes, des tout derniers versets des actes, acte 28-28, qui dit, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et eux, ils l'écouteront. En fait, l'espérance de Paul est un peu étrange parce qu'il avait déjà cité cette idée au chapitre 10, verset 19, j'exciterai votre jalousie, et dit, je suis l'apôtre aux païens. Plus les païens vont se convertir, plus les juifs vont être jaloux pour dire, moi je veux ça. Donc en quelque sorte, en remplissant à fond son ministère d'apôtre vers les païens, il pense qu'il contribue au salut des Juifs. Parce que les Juifs vont voir, voilà, même les païens croient, ça leur apporte tellement de bonnes choses, le salut, la vie éternelle, la relation avec Dieu, que ça va exciter la jalousie également des Juifs. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, parce que l'histoire ne s'est pas toujours passée comme on aurait voulu, mais bon, ça c'est quand même le raisonnement de Paul. Plus il exerce son ministère d'apôtre auprès des païens, plus ça va exciter la jalousie des juifs. Alors, maintenant on passe au verset 16, où il y a toute une partie, le salut des goyim, des nations et des israélites. Et on va essayer de comprendre tout ça. D'abord, de 16 à 24, il y a toute une image. L'image d'un arbre auquel on a enlevé une branche pour greffer une autre branche à la place. Donc en horticulture, on peut faire cela assez facilement. On veut telle ou telle variété de pommes, je ne sais pas quoi. Bon, on greffe une autre variété sur un tronc d'un autre pommier pour avoir la variété que l'on veut. Donc je vais lire de 16 à 24, où ce n'est pas d'un pommier qu'il s'agit, mais d'un olivier. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. De même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et si toi, tu as été coupé d'olivier sauvage selon sa nature et greffé, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux aussi seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Comprenons donc bien. L'olivier, c'est quoi? C'est déjà une. Il en est déjà question dans certaines prophéties de l'Ancien Testament. L'olivier, c'est le peuple d'Israël, qui plonge ses racines dans les alliances. Il plonge ses racines dans Abraham, Moïse, les alliances, les prophètes, enfin tout ça. Et qui, à l'époque de Paul, était visible comme peuple plongé avec ses racines plongées dans l'Ancien Testament. Mais parce que ces branches ne portaient pas de fruits, donc la foi, tu as enlevé ces branches-là et greffé les païens, les non-juifs, à leur place. Donc aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est nous l'Église. Le peuple de Dieu, c'est les branches juives qui croient et les branches des païens qui croient. Et on est tous greffés sur le peuple de Dieu qui plonge ses racines dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Seulement maintenant, c'est la Nouvelle Alliance. Et il y a toute une partie là où Paul essaie de tempérer un petit peu un orgueil possible en disant, bon, nous, païens, maintenant, on est greffés, mais tu as déjà enlevé les branches, attention, hein, il peut t'enlever aussi. Et aussi, il peut regreffer ce qu'il avait coupé, ce qui n'est pas possible en horticulture, je pense. Et Dieu peut le faire, il peut regreffer ce qu'il avait coupé. Mais l'idée de base, et je crois que c'est important, c'est de dire, Dieu a toujours le même peuple qui traverse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, seulement son peuple aujourd'hui, c'est à la fois les juifs et les non-juifs, mais sur ses racines plongées dans l'Ancienne Alliance. Et maintenant donc, pour arriver à la fin de ce chapitre, il parle d'un mystère. Ce n'est pas en fait, c'est la seule que je sache, le seul moment dans le Nouveau Testament où le mystère reste un petit peu mystérieux, parce que normalement le mystère c'est ce qui était révélé, une partie révélée mais pas complètement. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc les juifs désobéissants, dans le sens qu'ils n'ont pas cru, ont permis aux païens de se joindre au peuple de Dieu. Deux ou trois petits commentaires sur cela, parce que ces versets ont été le sujet d'énormément d'écrits, et il y a beaucoup de choses... qu'on peut se poser la question du sens. La première chose, le verset 32 par contre, je crois que c'est clair bibliquement, que quand on dit Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, ça veut dire tous sans distinction et non pas tous sans exception. Parce que on parle là des juifs et des païens, donc tous les hommes, c'est à la fois les juifs et les païens, pour faire miséricorde à tous, donc à la fois les juifs et les païens. Mais ce n'est pas tous, parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous montre que toute la population de la terre va croire en Jésus. Donc c'est tous sans distinction. Par contre, il y a deux autres expressions que j'aimerais commenter très brièvement. D'abord, le verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. De quoi s'agit-il? Je vois au moins quatre interprétations de ce verset. Je vous les donne. Après, on peut en parler à temps, si vous voulez. Mais la première interprétation, c'est tout Israël dans son ensemble, donc des représentants de toutes les couches de la société, mais pas forcément chacun individuellement. C'est un usage assez répandu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire tout Israël, mais tout en disant que certains n'étaient pas inclus. Deuxième sens, tous les Juifs, sans exception, seront sauvés avant la fin du monde. Troisième, tout Israël dans le sens, tous les Juifs élus, choisis et élus. Ou quatrièmement, tout le peuple de Dieu, juif et païen, parce que dans Galates 6, Paul parle de l'Israël de Dieu comme étant à la fois les juifs et les non-juifs. Et on peut aussi comprendre dans le contexte de ces racines et de l'histoire de la greffe, qu'il s'agit également de cela, d'autant plus que la fin du verset 25 termine jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Je ne vais pas me prononcer par rapport à cela. Peut-être déjà dans l'Église, les uns ou les autres auraient des convictions différentes, mais ce sont quatre façons de le comprendre. Mais quelle que soit l'option que l'on accepte, ce qui est clair, c'est que le plan de Dieu se réalisera. Il n'est pas pris au dépourvu. Donc, lui, il va faire en sorte que ce qu'il a prévu se passe. La deuxième petite expression, c'est « car il est écrit, le libérateur viendra de Sion ». De quoi s'agit-il? En fait, c'est une citation tirée de Ésaïe 59, 20 à 21. Et je pense personnellement qu'il s'agit surtout de la première venue du Messie, parce qu'on dit qu'il va détourner Jacob de son péché, il va faire une alliance avec eux, la nouvelle alliance, il va ôter leur péché, parce que c'est l'œuvre du Seigneur quand il est venu dans le monde. Donc c'est une façon de dire que ce soit les Juifs ou que ce soit les païens, il y a le même salut en Jésus-Christ. J'ai entendu, même des chrétiens dire, voilà, les chrétiens sont sauvés par la grâce, mais Israël a sauvé du fait que c'est le peuple élu de l'ancienne alliance. Donc ils n'ont pas besoin de croire en Jésus comme nous. Moi, je pense que c'est faux. C'est le Messie viendra, le libérateur viendra de Sion, c'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés, que l'on soit juif ou non juif. Alors, pour terminer ce texte, ces trois chapitres, Paul s'est laissé aller à toute une doxologie, on va dire, sur la grandeur de Dieu. Qui peut comprendre tout ça? Qui peut comprendre ses plans, notre responsabilité, sa souveraineté, le fait que c'est lui qui choisit, mais nous sommes obligés de croire? Dieu seul peut comprendre, parce que ça nous dépasse quelque part. Lui seul comprend. C'est à cause de lui que l'univers existe, que l'histoire existe. Donc je vais simplement terminer les commentaires sur ces trois chapitres en lisant ces versets 33 à 36. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait le recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà, au moins bonne conclusion. Dieu nous dépasse. On connaît sa grâce. Et comme on a dit tout à l'heure, on est là sur la bonne raison. Glorifier son nom. Alléluia.